Oui, bonsoir Daniel, bonsoir aux AMG. Écoutez, je vais tenter de garder mon calme. C'est pas simple. Je reviens en effet tout juste de Roissy. Je viens d'assister à une grande première en France. Une maman chinoise qui est mère de deux enfants, Clément, 4 ans et demi, Cécilia, 1 an, a été séparée de ses deux enfants et elle vient d'être embarquée, sur ordre du préfet de Seine-Saint-Denis, de force, dans un avion qui partait là tout à l'heure à près de 20 heures. Pour Pékin. Cette femme a passé 9 ans de sa vie en France. Elle a été arrêtée là, il y a une dizaine de jours. Elle a passé 8 jours en centre de rétention, sans voir ses enfants, sans vêtements de rechange. Elle n'a même pas pu les voir, les revoir, ces gamins, avant d'être embarquée tout à l'heure. Elle est partie sans valise, sans rien. On était, nous, avec les gamins, le père, sur le tarmac, totalement impuissant. Quand je vois ça, moi, j'ai vraiment envie j'ai honte, quoi. Je suis révolté. Révolté par cette politique que je trouve vraiment de plus en plus nauséabonde. J'aimerais vraiment, vraiment que le préfet ou que M. Hortefeux ou que M. Sarkozy viennent assister à ce genre d'événement. J'aimerais qu'ils regardent dans les yeux ce père totalement paumé que j'ai vu tout à l'heure. Vraiment, encore une fois, j'ai honte, je suis révolté, je voulais vous faire partager ma révolte. J'ai même, je dirais, presque envie de chialer. Bonsoir à tous.
Et alors, je viens protester parce que je m'aperçois que vous ne pouvez pas signaler toutes les réunions des repères. Ils sont trop nombreux bientôt. Et ça serait bien de rappeler donc à tous les auditeurs et auditrices que sur Internet, sur le site de là-bas si j'y suis, on peut trouver la liste de tous les repères. Si vous sentez isolé, vous ne savez pas qu'il y a un repère dans votre région ou dans votre ville, consultez Internet et ça évitera de passer tous les repères sur le répondeur.
Voici une bonne raison de mener une action directe non violente. Une parcelle de maïs transgénique a été plantée à Milly-la-Forêt, en plein cœur du parc naturel régional du Gâtinais. La plantation expérimentale a été effectuée par le semencier Serazem. Et les apiculteurs qui craignent une contamination de leur miel par les OGM se mobilisent et organisent une manifestation le dimanche 30 septembre à 14h à Milly-la-Forêt dans le 91. Venez nombreux. C'était Guillaume de Moigny-sur-École.
Eh bien voilà un exemple, absolument. Voilà pourquoi aussi on continue aujourd'hui. Action directe, non violente, deuxième partie. Alors on sourit du wouf. Oui, ben regardez, la France s'oriente vers la fin des cultures OGM. Ah, on ne s'y attendait pas à ça. Il va falloir être très très vigilant parce qu'effectivement, on ne s'y attendait pas. Mais ça montrerait, ça pourrait suggérer qu'on ne perd pas toujours lorsqu'on lutte. Et puis, évidemment, ceux qui luttent sont ceux qui vivent et le contraire est vrai aussi. Et nous, on va lutter et vivre. Ce soir, on sera à Quin. Vous savez où c'est Quin? Ben vous regardez sur une carte, c'est dans la baie de Somme, c'est dans le nord un peu de notre bel hexagone. Et qu'est-ce qu'on va faire à Quin? Eh bien, on va être présent au festival du film Grolandais, oui, Groland, et pour présenter une copie de travail du Chomsky et compagnie. Vous savez que on est en train de monter un film sur la série d'émissions sur Chomsky, et on va en présenter ce soir des éléments, des bouts de ce travail en cours, work in progress. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Le 23 août 1927, un peu après minuit, dans la prison de Charleston, état du Massachusetts, aux États-Unis, Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, deux militants anarchistes italiens accusés de crimes qu'ils ont toujours niés, sont exécutés sur la chaise électrique après 7 années de prison. 7 années au cours desquelles des comités de soutien se sont mobilisés partout dans le monde pour défendre leur cause. 80 ans après, l'association Mémoire à Vif s'interroge sur leur histoire pour faire dialoguer le passé avec le présent. C'est à Limoges, samedi 22 septembre, à partir de 14h, à l'hôtel de région, avec la projection du film d'Hélène Châtelain, Champ public devant deux chaises électriques, réalisé à partir de la pièce d'Armangatti, et une conférence débat avec Ronald Gregg, historien et auteur de l'affaire Sacco et Vanzetti. L'entrée est libre. Cette rencontre ne peut qu'éclairer tous ceux qui, aujourd'hui, s'efforcent de s'ouvrir à une conscience planétaire.
Oui, bonjour, c'est Jacqueline Imbert. J'écoute l'émission, là, et j'entends un industriel qui, dont les parents sont partis petits et qui a beaucoup travaillé, Et maintenant, ils sont 200. Et oui, il a de l'argent et il consomme. Et je voudrais savoir si ses ouvriers consomment la même chose que lui. C'est tout, la question que je lui pose. Merci.
Bonjour, c'est Bernard Denieur. Je voudrais réagir au message du gars qui a appelé en disant que son père avait monté une société, que lui l'a reprise, etc. Maintenant, il a 200 personnes, nanani, nanana. Enfin bref, c'est pas bien de critiquer les gens qui ont réussi. Enfin, alors moi, c'est curieux. Moi, en fait, mon parcours, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé par des parents qui avaient les moyens et qui étaient communistes, mais vraiment... profondément communiste, quoi, militant, etc. Moi, quand j'étais môme, en région parisienne, à Romainville, en fait. Mon père était kinésithérapeute à Romainville, conseiller municipal, etc. Enfin, peut-être que, voilà, certaines personnes se diront, tiens, je connais ça. Je connais ce monsieur. J'ai pas envie de donner mon nom de famille, parce que, bon, voilà, ça c'est pas intéressant, mais je veux dire, moi, j'ai grandi dans un milieu qui avait tout de bourgeois. C'est-à-dire une grande maison de 18 pièces. Quand j'étais gamin, moi, il y avait une bonne, il y avait un jardinier à la maison, et pourtant mes parents étaient militants communistes, mais vraiment à la cellule de Romainville. Ma mère a même été trésorière à l'époque. Moi, je me rappelle quand j'étais môme, j'allais vendre l'UMA avec mon père, j'allais le muguet de l'amitié le 1er mai en porte-à-porte, etc., pour le parti, etc., quand j'étais môme. Les fêtes de l'UMA dans la gadoue, dans la poussière, selon les saisons, enfin, selon les époques, j'en ai goinfré pas mal avec le parti communiste, la cellule Mahé de Romainville, c'est des souvenirs. Et mon père était réellement un militant convaincu communiste. Et pourtant, croyez-moi, on allait à la fête de l'UMA en Mercedes, quoi. Et moi, j'ai pas voulu faire d'études, mes sœurs en ont fait, etc. Mon père pensait que je reprendrais son cabinet, il était kiné, je l'ai déjà dit. Et donc, voilà, je voudrais dire simplement à ce gars, moi, je vais avoir 47 ans, là, bientôt. Je regrette rien, j'ai eu la possibilité, mes parents avaient un idéal, quoi. Moi, je me rappelle quand Mitterrand est passé, mes parents ont voté Mitterrand, parce qu'on avait, voilà, enfin, moi, en tout cas, j'ai voté Mitterrand, mes parents étaient plutôt pour marcher à l'époque, enfin... Et il savait très bien que si la gauche passait, il aurait des emmerdements parce que considéré comme un anti. Effectivement, il a un redressement fiscal. Enfin bon, mais il était persuadé. Il disait de toute façon, je veux bien donner ce que j'ai, si à condition que ça puisse servir à d'autres. Quoi. Enfin, c'était quelqu'un de foncièrement bon. Je veux dire, moi, je suis plus communiste aujourd'hui. Enfin, je suis toujours de gauche, mais plus communiste. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce que mes parents m'ont inculqué. Alors, je voulais simplement dire à l'autre foutriquet, là, qui a repris la société de son père ou je sais pas quoi. Ben c'est très bien, mon grand, c'est très bien. Mais c'est pas pour autant qu'il faut renier les idées humanistes. Enfin, je sais pas, voilà, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'on peut être d'en haut et d'être de gauche. Enfin, je veux dire, bon, voilà, cette arrogance, oui, on va quitter, on méprise, etc. Enfin, je trouve ça d'une médiocrité. C'est pas parce que ton père a réussi et puis que t'as repris la suite, mon pépère, qu'il faut t'imaginer que tous les ouvriers sont des salauds, quoi. Donc, voilà, c'était une tranche de vie, ça me permet de dire que je regrette un peu mon père qui est décédé aujourd'hui, quoi, et que je le remercie de m'avoir élevé comme il l'a fait. Voilà. Salut à tous.
Eh ben alors là, pas mieux.
La résistance décide d'envoyer un opérateur filmer la vie d'un maquis.
J'ai emballé ma caméra et la pellicule dans des colis de légumes. Et me voilà parti. Pour le maquis du Vercors, paraît-il. Après le train, l'automobile. La sortie de Lyon. Les autres préparent leurs armes et moi ma caméra. Le maquis nous a aperçus sans nous identifier. Une embuscade est tendue à notre voiture. Halte. Les hommes du maquis occupent une position inexpugnable. Laisser passer sont en règle, et bien qu'il n'aime pas beaucoup ma caméra, le poste nous laisse passer.
Salut, c'est Daniel Mermet, La Passe où j'y suis, avec Guy Vanctil et Renaud Lambert. Action directe, non 40.
Flight number 2, arriving from...
Chaque semaine, ils voyaient monter vers eux les volontaires des compagnies civiles.
C'étaient des hommes qui, continuant de travailler dans la plaine, venaient ainsi chaque samedi se perfectionner dans l'instruction militaire pour être prêts lorsqu'on fait appel à eux.
Ok, allez, on va commencer.
Voici une démonstration à 1500 mètres d'altitude.
On va essayer de mettre en pratique tout ce dont on a parlé hier. Ce qu'on va faire ce matin, on va faire une seule activité, c'est préparer, jouer et évaluer une action que vous allez mettre en place. Et donc ça veut dire qu'on va répartir le groupe ici en différents rôles. Évidemment, il va y avoir des activistes. Évidemment, il va y avoir de l'autre côté des forces de l'ordre. On va demander à nos amis journalistes de aussi tenir un rôle dans cette action. Et puis, pendant une heure, on va vous demander de préparer cette action. On a la chance de pouvoir être dehors ici et d'avoir un terrain qui peut se prêter très bien au scénario qu'on a imaginé pour vous. Ici, là, plus loin, est le chantier de construction du réacteur EPR. Et il y a là-bas, là derrière, un chemin d'accès pour le matériel et les grues, les camions, etc. du réacteur. Et un groupe d'activistes a décidé d'en bloquer l'entrée pour empêcher le déroulement des travaux pendant un certain temps.
L'histoire ne repasse pas les plats. L'histoire ne repasse pas les plats, ou alors sous forme de farce, entre ces reportages sur le Vercors des dates de la Deuxième Guerre mondiale et puis là où nous sommes aujourd'hui dans ce même Vercors avec les désobéissants, avec ces jeunes gens qui organisent des stages à la formation, à l'action directe, non violente. Il y a peut-être la différence qu'il y a entre les deux moments de l'histoire, la première pathétique et la deuxième sous la forme comique. Alors on peut sourire, comme on aurait pu sourire le 1er décembre 1955 quelque part dans l'Alabama, à Montgomery, où une femme jeune, noire, qui s'appelait Rosa Parks, a dit non. Elle a dit non. La ségrégation raciale sévissait aux États-Unis. C'était le principe même de la société américaine. C'était dans les lois, c'était les lois ségrégationnistes Jim Crow qui dominait dans ce pays. Elle a dit non, cette jeune femme noire, et a dit non à qui ? Ben, au chauffeur de bus qui lui disait qu'elle n'était pas à sa place, elle était assise devant, dans le bus, et que ça, devant, c'est les places réservées aux Blancs, et que des gens comme elle, eh bien, c'était dans le fond. Et elle a dit non, moi je reste assise là. Les flics sont venus l'arrêter, et elle a dit, mais pourquoi tant de persécutions ? Et le flic lui a dit, mais j'ignore, mais la loi, c'est la loi, et au nom de la loi, je vous arrête. En 1956, un an après, la Cour suprême cassait les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant inconstitutionnelles, et en 1964, les lois ségrégationnistes étaient abrogées aux États-Unis. C'était ridicule, évidemment. Pourquoi est-ce que cette femme noire voulait absolument rester assise devant, alors que la loi, l'ordre, c'était d'être assise derrière, normalement, comme une femme de sa condition doit le faire. Des histoires comme ça, notre histoire en est remplie. On peut placer cette heure sous son égide, la prendre un peu comme figure, avec ceux qu'on retrouve aujourd'hui. Donc d'abord Guy Vanctil et Renaud Lambert, c'est nos reporters, on y tient quand même un peu. Et puis surtout à tous ceux qui sont là, dans ce maquis, autant que ça puisse en être un encore aujourd'hui. En tous les cas, c'en est un dans leur esprit. Ce sont des gens qui sont des militants ou des gens qui aspirent à le devenir dans des domaines différents, sur des causes différentes, même si elles ont une familiarité, parce que c'est quand même très souvent des gens de la mouvance Greenpeace, écolo plutôt, avec une dissidence, et qui sont là pour désobéir, parce qu'ils pensent que c'est leur devoir, c'est leur idée, c'est leur idéologie même, un mot obscène, hein, faut pas répéter ce mot-là, c'est un mot cochon, ça, c'est comme capitalisme, c'est des mots qu'il faut pas... Il y a ouvrier aussi, faut pas prononcer ces mots-là. Et ils pensent quand même qu'il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et c'est pour ça que nous sommes avec eux jusqu'à 16h sur France Inter, Action Directe Non Violente.
Ils me sont tous tombés dessus quand je leur ai chanté les pâquerettes que j'avais achetées pour Arlette le matin même au bout de la rue. Si c'est pour nous qu'on t'effleurette, que tu viens t'enquicher chez nous, la chanson c'est un truc sérieux, soit tu t'engages, soit tu t'en fous. Alors rentre chez toi et répète 100 fois, j'emmerde les bourgeois et leur gouvernement. Et puis j'emmerde tous ceux qui sont pas militants, parce qu'ils ont pas les couilles le dimanche matin de venir se geler les burnes à la manif du coin.
Comment est-ce qu'on peut aussi faire ou tenter de faire une blocade en utilisant son corps, ses bras, ses jambes en groupe, bloquer un passage ou un endroit le plus longtemps possible?
Est-ce qu'il y a des volontaires qui peuvent essayer?
Bon. 6, 7. Voilà, maintenant après les travaux théoriques, on passe aux travaux pratiques. La nuit est tombée dans le plateau du Vercors. Tout le monde est près du feu parce que maintenant il fait très très froid. Donc, comme il fait très froid, un peu d'exercice, on apprend à faire un blocage. Une dizaine de militants se mettent assis au sol, les pieds au milieu. Atelier blocage, immobilisation.
Ça, c'est la première chose. Et après ça,
voilà, c'est une espèce de mêlée humaine. Ils sont tous entassés, empilés.
C'est un peu trop, parce que tu dois. C'est ça.
Ah, voilà, on s'en mêle les pieds les uns et les autres, et puis après, on s'attrape par les coudes. Ça fait une espèce de motte humaine compacte. De tas humains assez informes avec des têtes qui sortent d'un côté et de l'autre.
Donc, si tu le caches entre votre jambe
et on cache les mains sous les pieds.
Peut-être jambe un peu plus.
Moi, il me reste une main. Pour aller les démêler.
Allez, monsieur.
Allez.
Stop.
Et voilà, une espèce de mille feuilles humains et défait.
Il faut se raccrocher automatiquement dès qu'on tire pour
l'idée de base, c'est d'avoir le moins de prises possible. Moins il y a de prises possible, plus ils auront face à eux une masse.
Quand ça marche. C'est une bonne blocade.
Alors, Marie-Christine, tu m'expliquais tout à l'heure que toi, tu as 59 ans, c'est ça?
Oui.
Donc tu fais partie des militants les plus aguerris du stage, là. Et toi, tu as commencé quand?
C'était les manifs à vélo à Paris. Ça doit faire 35 ans, à peu près. La vélorution, c'était déjà d'essayer de lutter contre la quantité de bagnoles innombrables qu'il y avait dans Paris, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre conscience aussi du rôle qu'on avait sur une terre qui était finalement relativement limitée, quoi, qui n'était pas extensible.
Et t'avais quel âge à l'époque?
J'avais 20 ans.
Ah, c'est à peu près l'âge de certaines des jeunes militants qui sont ici au stage.
C'est pour ça qu'ils continueront, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison. Enfin bon, je connais des gens de mon âge qui n'ont pas continué, ça c'est vrai. Et parce que ça fait un moment qu'ils se sont arrêtés même. Mais
si parmi les plus jeunes, il y a une conscience politique, une connaissance?
Pas trop, je pense. Il y a à l'évidence un rejet de la politique classique telle qu'elle est pratiquée. Bon, il n'y a peut-être pas une analyse politique très approfondie, ça va venir, hein, ils ont tout ce qu'il faut pour ça, il hein, n'y a pas de problème.
Il y en a qui ont des postes quand même dont on peut penser qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société et aussi dans une forme de système.
Flic.
Il y a des gens qui travaillent dans la finance.
C'est dur là. Ouais. Quelqu'un hier m'a dit, je fais un boulot de merde mais ça me permet de militer à côté. Et je lui ai dit, je comprends pas trop ça. Je veux pas faire un boulot de merde.
Et parfois, on peut se demander si les gens disent le boulot permet de militer, mais on se demande si parfois le fait de militer permet d'accepter le boulot de merde.
Oui, je pense, oui, ça donne bonne conscience quelque part en se disant, bon, ben d'accord, je fais un boulot nul, mais je vais aller gueuler contre les centrales, etc. C'est un peu dommage, quoi. C'est pas cohérent, je trouve.
Tu fais quoi comme métier ?
Je suis écrivain public.
Alors qu'est-ce que tu écris pour les gens ?
De tout. Ça peut être comment récupérer mon RMI, ça peut être des lettres d'amour. Mais le coup des gens qui ont perdu leur boulot, c'est complètement fou, parce que des fois, mon travail à moi, c'est pas simplement d'écrire une lettre, c'est aussi de faire sortir tout ce qu'ils ont de bien, quoi, parce qu'il y en a des tas de choses bien, seulement, bon, entre la NPE, la CEDIC, les gens, les machins, les refus, les claquages de portes et trucs, ils en peuvent plus, ils ont plus envie, ils sont persuadés qu'ils sont nuls. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de chercher, de les faire parler.
Finalement, est-ce que ce n'est pas une forme d'action directe non violente, ça, d'agir comme ça sur le quotidien des gens, en les aidant à retrouver un peu une estime d'eux ?
Moi, je pense, ouais. Ouais.
On va manger ?
On va manger ? J'ai faim ! Et puis j'ai froid, surtout.
L'estime de soi, les affaires de dignité, des mots un petit peu oubliés... Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà ça. On est passé des années, on n'y peut rien, c'est comme ça, les années 80, aux années, c'est déjà ça, aux années du petit peu, aux années du colibri. Il y a un des stagiaires de ce stage qui nous a raconté ça, qui a raconté comment lui se prend pour un colibri, c'est-à-dire ce petit oiseau, tout petit oiseau minuscule, qui explique qu'il va, il a une goutte d'eau au bout de son bec, et la forêt est en feu. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette goutte d'eau ? Il dit, je vais la jeter sur l'incendie. Et comme ça, j'aurai fait mon acte. C'est déjà ça. Alors, il y a les colibris. Et puis, il y a ceux qui cherchent des moyens d'action plus radicales, des actions à long terme, des actions souterraines. Enfin, ça mobilise. C'est des vieilles histoires dont on parle là, hein. C'est des histoires qui sont pas seulement liées au mouvement écologiste, au mouvement même, aux mouvements sociaux. C'est comment chacun peut agir là où il est sur l'histoire, tout simplement. On n'ose pas dire des mots pareils, mais c'est au fond ce qu'ils ont présent à l'esprit. Les gens, il y a des fois des actions, j'évoquais Rosa Parks, mais des actions, bon, voilà, la vélorution, c'était de dire, voilà, la pollution au début des années 70, c'était un peu ridicule, c'était folklore, c'était les marginaux, les allumés. N'empêche que les quartiers piétons, la renaissance du vélo, la prise de conscience très très lente, des dégâts causés par circulation excessive, etc. Ils avaient raison avant les autres. Mais alors cela dit, quand on se lance dans des actions, on ne sait jamais où ça va. Il n'y a pas un résultat direct, jamais immédiat, jamais bien direct. C'est des pressions qu'on donne, c'est des éléments qu'on donne, et parfois ils disparaissent, des fois ils sont récupérés. Les militants sont des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'être là, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on est avec eux, avec Marie-Christine et avec les autres, donc autour de ce stage d'action directe non violente organisé dans un coin du Vercors.
On est la gendarmerie locale, en fait. Hein.
D'accord, et sur ton brassard, il y a écrit
« Chef ».
C'est un accident,
effectivement.
Et donc votre mission là, dans le jeu, c'est
de débloquer la route qui ouvre l'accès aux ouvriers pour la centrale, en fait.
Voilà, on va aller au camion.
Ouais, on va aller cuire dans le panier à salade. On se mettre en condition.
En fait, pendant tout le stage, on a parlé de la police, un peu des CRS comme étant vraiment l'ennemi, quoi. Donc vous, là, vous passez le cap, vous êtes l'ennemi.
Ouais, c'est vrai qu'il faut se mettre dans la peau de... Mais c'est intéressant, dans le sens où, comme ça, on voit un peu comment ils réagissent. On voit que c'est des êtres humains. T'as fait le plein, c'est bien.
C'est des êtres humains, en fait.
Oui, c'est des êtres humains comme nous. Et puis bon, après, effectivement, on peut quand même supposer qu'ils sont là pour suivre les ordres, qu'ils font pas forcément ce qui leur plaise. Faut aussi se mettre un peu dans la peau de l'eau. Je pense que c'est nécessaire.
Mais vous, en tant que militant,
ouais.
Hier, il y a un groupe préparait une action, un projet d'action. Ils évoquaient la possibilité de se déguiser en œuf pour attirer les médias, parce qu'on sait que les médias sont friands de ce genre de choses, de gens qui défilent nus sur les Champs-Élysées. Vous feriez ça ?
jusqu'à un certain point. Ouais, ouais, c'est, moi, j'aime bien la technique des clowns, effectivement, d'aller dans la dérision et d'une image un peu forte. Ouais, moi, je pense que je serais prête à le faire. Ouais.
Et c'est pas incompatible avec le côté sérieux des propos.
Absolument pas. Ah non, au contraire. Au contraire.
S'attaque à l'abri.
Hyper, qui a les ampoules standards au prix le plus bas de la région, il n'y en a qu'un. Mais j'emmerde les hyper et j'emmerde la pub. Toutes nos actions sont non violentes et revendiquées, bien sûr. Nous sommes des citoyens qui essayons d'être aussi libres que possible.
Bon, on entend parler des choses et on vient chacun pour soi et puis on se retrouve sur place, franchement. Ça se fait très facilement.
Tu joues à méchant, tout le monde est méchant. T'as un procès aux fesses ?
Oui. Le 12 janvier au tribunal, à la 29e chambre, tribunal correctionnel, pour avoir marqué un message hostile à la croissance sur un panneau qui vantait les mérites d'une marque de whisky.
C'était quoi comme marque ?
Four Roses. J'ai marqué marre de la pub, ce qui n'est pas forcément très intelligent. J'étais assez énervé parce que mon père est alcoolique et je trouve ça pas très cool de promouvoir la publicité.
Alors, t'as accusé de quoi là ?
Dégradation.
Parce que t'as écrit sur une affiche.
C'est ça, oui.
C'est-à-dire que c'est pas les publicitaires, c'est pas les afficheurs qui ont porté plainte, quoi. C'est l'État qui porte plainte.
Comme le rendez-vous est public, il y a quelques journalistes, il y a aussi la police qui est présente. On explique ce qu'on va faire, de façon à ce que ça se passe dans le calme. Les policiers, lors de les arrestations, souvent ils disent « c'est bien ce que vous faites, on est avec vous ». En général, ils attendent qu'on ait agi avant de nous interpeller. On m'a saisi la bombe des mains, je crois que j'étais sur la dernière lettre. On fait ça à visage découvert. Dans les pas de Gandhi, je dirais, de façon non violente mais déterminée.
C'était déjà arrivé d'aller au poste ?
Oui, mais c'est la première fois qu'il y a des suites judiciaires. Ouais. Mais tant mieux, hein, on ne demande qu'à expliquer notre geste. J'ai pas l'impression que tous ces panneaux qui sont souvent éclairés, motorisés, soient une bonne chose pour la société. C'est certainement pas un progrès, c'est à mon avis un recul. Je sais pas, je crois que c'est 600 panneaux par jour qu'on visualise quand on prend le métro. Et même quand on en est conscient, on subit cet affichage en permanence.
Qui croit encore à la publicité ? L'idéologie publicitaire est violente et destructrice. Elle manipule, elle désinforme, elle abîme. Abat la pub. R.A.P. Résistance à l'agression publicitaire.
Toi, ce qui t'a amené ici pour cette formation pour l'action directe non violente, c'est la lutte contre l'agression publicitaire.
Entre autres, mais je trouve que c'est une démarche qui est intéressante.
Redis-moi ton prénom.
Jean-Michel. Je suis informaticien. Je fais des logiciels pour des dentistes.
Ça marche bien ?
Ça va. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai fait des jeux vidéo divers et variés. J'ai fait des grosses conneries aussi quand j'étais plus jeune. Genre, quand j'ai été étudiant, on m'a proposé 24 000 euros pour travailler une semaine sur des systèmes de simulation de gyroscope pour des missiles. Et voilà, j'ai fait ça, j'avoue.
Et ça, t'appelles ça une grosse connerie ? Parce que moi, je pensais que t'allais me dire un truc de drogue ou un truc de jeune qui fait des bêtises.
Bah ouais, c'est un truc de jeune qui fait des bêtises pour de l'argent. Mais c'est pas la porte ouverte. Quand t'es étudiant, 24 000 euros, c'est pas rien, quoi. Surtout que les études, c'est pas donné. Et bon, bah ouais.
C'était quoi comme bêtise, alors ?
Un système de guidage de missiles. C'était de la simulation, les gens étaient contents. J'ai empoché mon gros chèque, bêtement.
C'était pour qui ?
Aérospatial.
Et ça, tu supportes ça comme un regret, comme un poids sur ta conscience, j'ai l'impression.
Ouais. Je suis content d'être arrivé ici et de pouvoir compenser cette connerie-là, j'espère.
Tu te rachètes ?
Un petit peu, peut-être, oui. Je vais te faire des bêtises, hein, mais au moins, on a la possibilité d'évoluer et de devenir moins con.
Et qui est-ce qui s'est déjà pris des lacrymones ?
Je pense un peu tout le monde, au moins en étant lycéen. Mais... On va poser la question inverse, qui n'en a pas pris ?
Flashball, quelqu'un inconnu déjà ?
Non.
Matraque ?
Oui.
Charge, après il reste.
Ah moi j'ai connu les voltigeurs. C'est ouais, sympa ça.
Ouais, ça aussi j'ai connu à Paris à l'époque, des manifs de Bré et tout ça. C'est les mecs qui arrivent en petite mobilette là. Et...
Ils vont sur les trottoirs, ils vont partout.
Eux ils te mettent à terre.
Eux
ils te mettent à terre, ils continuent et t'as les autres derrière qui arrivent et qui latent.
Concernant les lacrymos, enfin surtout les trucs envoyés, il y a un truc très bête que j'ai rarement vu utiliser mais qui est très bête, qui est un simple bout de métal ou de bois dans lequel vous enfilez une chaussette par exemple, et quand il tombe, vous l'imprimez et vous le renvoyez comme un système de chez Sterra. Il y a un système tout bête et ça, vous le renvoyez retour à l'envoyeur. Ça, c'est très efficace. C'est pas beaucoup employé. Là.
Pour ceux qui vont aller au G8, ils mettent du gaz lacrymo dans l'eau des citernes à eau, et du coup c'est jet d'eau plus lacrymo, donc ça s'imprègne dans les vêtements. Dans les vêtements,
C'est quoi la manif la plus chaude que tu as faite?
Ma première, les mineurs de Longwy.
Longwy.
Ah ouais, ça fait quelques années ça.
Ça fait 80, ouais.
Longwy, vous le savez sans doute, a connu la nuit dernière une nouvelle flambée de violence, manifestant, protestant contre le brouillage de la radio libre de la CGT Lorraine Cœur d'Acier contre CRS et Garde Mobile.
Bah ouais.
Tu faisais quoi à ce moment-là?
Je faisais quoi? Bah je suivais un groupe et ça a été ma formation finalement au militantisme et à l'activisme quoi. Voilà, t'y vas parce que t'es complètement inconscient, parce que t'as une certaine inconscience du danger, puis tu te prends du lacrymo, et puis tu vois les CRS chargés, tu flippes, voilà. Mais bon, c'est bien de commencer comme ça, parce qu'après, quand tu passes à la non-violence, c'est sympa aussi, quoi.
C'est quoi ton prénom déjà?
Jean-Charles.
À quel âge à peu près?
42.
Donc toi, t'as commencé à avoir pas mal de bouteilles d'action de rue, c'est ça, si je comprends bien? T'as fait un peu le tour, justement, des autres manières de contestation?
Je suis passé de la violence à la non-violence.
Quelle violence tu faisais?
Violence, c'était balancer du cocktail, c'était balancer du pavé, c'était démonter des grilles, c'était.
Un cocktail Molotov.
Oui, bah c'était. T'étais entraîné dans un mouvement, c'est vrai qu'à 16 ans, t'es pas conscient de ce que tu fais, quoi. Je le regrette pas, mais effectivement, j'aurais peut-être préféré commencer par des mouvements comme ça, de non-violence, qui m'auraient. Parce qu'à l'époque. Enfin bon, on était beaucoup plus livré à nous-mêmes. C'est vrai qu'on était beaucoup moins cadré dans les manifs. C'est vrai, les mouvements gauchisants assez violents. Quoi. Donc tu suivais ça parce que tu étais là-dedans. Quoi.
C'était quoi? C'était les revendications ou c'était l'excitation de l'action?
Je crois que c'était plus au début l'excitation de l'action. Ouais. C'était de former au militantisme, c'était parce que tu avais envie de faire ça et que voilà, peut-être que tu t'emmerdes aussi.
C'était quoi justement le monde dont tu venais, ton milieu d'origine?
À mon milieu, c'est bourgeois, père fasciste, nostalgique de la guerre d'Algérie.
C'est lourd.
L'occupation, c'était pas si mal parce qu'au moins il y avait de l'ordre. Voilà le milieu d'où je viens. Donc c'est vrai que j'ai pris carrément le contraire parce que résistance à l'autorité, donc résistance à l'autorité totale. Et effectivement, le flic, c'était l'autorité. Et voilà, en fait, moi j'ai fait le meurtre du père par le militantisme.
Dans la rue.
Ouais, dans la rue, j'ai fait le meurtre du père comme ça. Quoi. Voilà, j'espérais effectivement qu'il me voit pour l'emmerder. Quoi. Voilà, je crois que c'était ma psy, c'était ça. Quoi.
Enfin, le maire de Longwy, M. Jules Jean, a décidé de fermer sa mairie pendant 24 heures pour protester contre, je le cite, l'attitude inadmissible du gouvernement, du patronat et des forces policières. Les travailleurs, a conclu M. Jean, sont en état de légitime défense, ils se battent pour leur vie et pour la survie du bassin.
Longwy, une référence, Lorraine Cœur d'Acier, le Vercors, le Maquis, il y a toute une. Évidemment, dans l'imaginaire de ces militants, il y a toutes ces références, tous ces grands embrasements de l'histoire sociale de notre pays. Mais il y a aussi des figures bien connues. Hier, on disait de jeunes bourgeois venus s'encanailler à la Sorbonne. Ou bien aujourd'hui, on peut dire aussi, ben là, ce qu'on entend là, c'est des bobos qui se la pètent et puis voilà tout, quoi. Et oui, et c'est ainsi, peut-être, sommes-nous là avec l'avant-garde du renouvellement et du renforcement et du rajeunissement du capitalisme. C'est pas exclu du tout. Et peut-être qu'on a la figure, encore une fois, évoquée en début de cette heure de Rosa Parks, des gens qui sont capables de changer les choses, d'être en phase avec le temps, avec l'histoire. C'est très difficile de savoir et de choisir. Enfin, en tous les cas, on laisse évidemment la liberté à chacun de se faire son idée. Concernant les ancêtres, c'est-à-dire quand même, il y a l'ombre de 68 qui est derrière ça. Un des participants à ce stage nous disait sur les 68 tards, à force de répéter ni Dieu ni maître, on en a fait des dieux et nous, on s'est fait maître.
On a un petit peu,
Voilà, ça y est, tout le monde est installé, l'action a lieu. Des manifestants ont pris une banderole où ils ont écrit « Non à l'EPR pour nos enfants » avec le signe du nucléaire. Et puis il y en a d'autres qui ont mis des tapis de sol et qui ont fait exactement l'exercice de la veille, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en boule les uns tenant les pieds des autres, cachés les bras par-dessus, par-dessous, et ils bloquent la route. Et il y a deux ouvriers là qui essayent de s'énerver. Et les autres, pendant ce temps-là, sont en train de faire les journalistes. Et pendant ce temps-là, on voit les CRS qui arrivent. Ils sont sortis de leur camion et ils sont en train de marcher en ligne. Et pendant ce temps-là, les deux formateurs de ce stage à l'action directe non violente sont en train d'observer en prenant des notes et le sourire intéressé. C'est comme pour de vrai, sauf que c'est pas pour de vrai.
Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Ah, voilà les CRS.
Ah bah vous tombez bien, ah oui, en fait. Hein. Voilà, ils nous empêchent d'aller bosser. Il y a les collègues qui arrivent, la deuxième équipe, là, faut que ça débarrasse. Donc allez-y.
C'est vous le porte-parole?
Oui.
Les responsables?
Arrêtez vos conneries, la bande de gugus, mais.
On fait pas de mal.
Sale gauchiste.
On fait pas de mal.
Bon, il y a pas de responsable.
Areva.
Tous responsables.
Très bien, oui.
On est tous responsables. On est tous concernés par le nucléaire.
Qu'est-ce qui se passe?
Attention, là, faut.
C'est la sirène de la police. Ah, les forces de l'ordre arrivent dans leur camionnette. À mon avis, ça va barder pour vous, là, avec votre panneau non à l'EPR.
Il y en a marre des bourgeois qui bossent pas pendant que nous, ils nous empêchent de bosser. Allez.
Mes enfants, j'y pense très bien, il faut que je les nourrisse justement.
Qu'est-ce que ça va devenir ?
Personne ne fait de la pollution, tout ça en dépôt d'échappement, mais ça quand même, on n'y peut rien. C'est utile, vous n'allez pas revenir à la bougie.
Ah, voilà les CRS qui arrivent.
S'il vous plaît, on va faire
responsable.
Vous pouvez rester à l'écart.
Ah voilà, les CRS sont soulevés.
Non, allez, pardon.
Mais jusqu'à où ça peut aller? Tu dis action directe. Oulala, non violente. Ah bon?
Bah écoute, jusqu'où ça peut aller, c'est à chacun de le décider. Là, clairement, on est dans l'idée de ne pas s'en prendre aux personnes physiques. Mais si on peut faire perdre de l'argent à une multinationale ou à un gouvernement qui viole le droit ou qui viole la morale contre les intérêts du bien public, de la communauté, etc., eh bien, on le fera, évidemment. Et puis, peu importe les conséquences. Heureusement que dans l'histoire, un certain nombre de gens ont osé faire grève et faire des grèves, y compris illégales, pour imposer des revendications qui étaient légitimes, que des femmes ont refusé de faire telle ou telle tâche et ont exigé le droit de vote à certains moments au risque de la matraque, que des Gandhi, des Martin Luther King ou des Rosa Parks ont refusé les systèmes d'apartheid, de discrimination ou de colonisation contre lesquels ils s'élevaient, au risque de leur liberté, au risque de se prendre des coups. Mais voilà, c'est... Le but est de... On ne peut pas... Enfin, ce monde est insupportable et en même temps tellement beau. Donc, si on peut le sauver en éliminant tout ce qui nous est insupportable, on le fera. Et finalement, on est un certain nombre là à ne pas pouvoir faire autrement. C'est quelque chose qui fait que... je veux dire, militer, c'est... Ou essayer de faire quelque chose, c'est presque naturel. On n'a pas...
En tout cas, on voit pour beaucoup de ceux qui sont là, c'est une épine dorsale. C'est un truc qui les tient.
Complètement. Et on n'est pas dans les... On n'a pas véritablement des gens, on pourrait penser des gens peut-être en marginalité sociale ou affective, etc. Mais non, là, on a plein de gens qui sont parfaitement intégrés, qui ont des boulots correctement payés, des familles, des enfants éventuellement, et qui, néanmoins, considèrent que c'est un peu le loyer à payer à cette planète. Il faut se battre. On ne peut que se battre. On ne peut pas faire autre chose. Alors, si ça peut être ludique, si on peut y prendre du plaisir, on le fera. On n'est pas là pour s'emmerder. On n'est pas non plus des moines soldats, mais il faut que ça soit efficace. Nous, on est des citoyens ordinaires, plutôt intégrés, bien intégrés socialement, et qui prennent des risques sans faire prendre de risques aux autres. C'est-à-dire que finalement, dans ces actions, si le danger il y a, on va essayer qu'il n'y en ait pas, mais il arrivera qu'il y en ait. Et bien, il n'y a que nous qui allons les assumer, ces dangers. Le danger sera pour nous. Le danger de se prendre de la violence, le danger d'être d'une répression forte, de perdre notre liberté, d'avoir des grosses amendes. Donc, si on communique correctement, si on fait bien passer ce message que nous ne voulons mettre en danger personne, nous ne nous en prenons pas aux forces de l'ordre, nous ne sommes pas dans un rapport de violence, mais nous dénonçons en revanche une violence qui est faite, une violence contre la planète, contre la paix, contre les pauvres, eh bien, je pense qu'on peut désarmer ou désarçonner l'argumentaire de l'adversaire.
La violence est la seule chose qui reste. Quel que soit le régime.
Quelqu'un par hasard sur l'autoroute en train de changer de radio tombe là-dessus, entend un morceau de l'émission et va dire mais qu'est-ce que c'est que ces bronques quoi. Chut, allez, va jouer là-bas. Allez.
Greg, c'est ça ?
Ouais, ouais, ouais.
Toi, t'es un de ceux qui, j'ai l'impression, a le plus d'expérience dans toutes ces affaires d'actions non violentes aujourd'hui, là.
Bah, j'ai passé 2 ans à Greenpeace, donc c'est, ouais, t'apprends, c'est une bonne école, ouais, t'apprends pas mal. Ouais.
Pourquoi t'es venu ici, là, cette fois-ci, pour ce stage de formation ?
Parce que moi, je suis allé à un moment donné, dans ma vie, je me suis dit, c'est devenu un peu une évidence, quoi. J'étais journaliste avant, je passais pas mal de temps à écrire et à bosser sur ces sujets, là, un petit peu développement durable, etc. Moi, à l'époque, je bossais pour les Échos, donc j'en bouffais pas mal, tu vois, des rapports financiers et tout ça. Et à un moment donné, tu vois, tu récupères des infos, tu les traites chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et on est parti en Galice pour le Prestige. On a monté un collectif qui s'appelait Subtanker, ça veut dire Stop aux outrages, aux agressions pétrolières. Donc on est parti 3 fois là-bas, nettoyer. Et là, il y a un moment donné où, en tant que personne, tu pètes un plomb, quoi. T'arrives sur une plage. Moi, je viens de l'île de Léron, en plus. Donc, tu vois, la plage, ça me parle, quoi. Et t'arrives, tu vois ça... C'est dégueulasse, t'as du truc partout. Et là, tu dis, bah non, c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est pas écrire, dire que c'est dégueulasse, dire que c'est machin. Ouais, c'est bien, il faut le faire, c'est net, c'est indispensable. Mais il y a un moment où, tant que personne, tu vois, t'as envie de, hop, faire ce pas en plus, quoi. Celui qui te pousse dans l'engagement, quoi.
Se mouiller, quoi.
Ouais, et puis même plus que se mouiller, c'est vraiment s'engager, quoi. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, bah, pendant tout le temps où je vais rester là-dedans, c'est un choix que je vais faire, je vais y aller à bloc, quoi.
Voilà, comment on peut être journaliste dans un journal économique et puis un jour, il y a la prise de conscience, hein, c'est y a le chemin de Damas, il y a un jour où Paul tombe de son cheval et puis découvre que c'est plus possible et puis refuse. Voilà, il y a tout un tas de procédés, de processus, de cheminement qui entraînent les hommes et les femmes à prendre conscience que ça peut plus durer. Certains, c'est dans leur vie, même dans leur enfance, dans leur... origine, mais la vie personnelle est très importante dans ces affaires-là. Je veux dire, l'expérience personnelle est très importante. Mais on voit bien que quelque chose bouge dans notre, comment on dit, parce que c'est le mot qui est très employé là, bouger, hein, le bougisme, il faut que ça bouge, il faut faire bouger les choses, etc. Qui aurait peut-être tendance à donner un sens à une phrase, deux phrases d'un certain Marx. Karl, vous voyez, Marx, Karl, qui disait « L'économie politique, malgré son air laïque et matérielle, est en réalité une science morale, la plus morale des sciences. Son dogme principal, c'est le renoncement, l'abandon de la vie et de tous les besoins humains. » Voilà, et peut-être que là, ces militants ont compris qu'ils ont renoncé à renoncer. Et ils abandonnent l'abandon.
À partir du moment où tu décides d'intervenir dans l'espace public, parce qu'au final, c'est comme ça, quand tu fais une action, c'est que tu prends la liberté en tant que personne de venir t'imposer sur un terrain qui n'est pas le tien pour faire entendre tes idées.
Alors que personne ne t'a rien demandé.
Alors qu'on n'est pas, personne ne t'a demandé. Si tu n'es pas capable d'avoir un discours qui tient la route de A à Z, tu ne peux pas te permettre de l'ouvrir, quoi. Si, donc, moi, pour moi, c'est une nécessité, ouais. Tu vois, d'être capable de... bien comprendre où intervient l'action que tu fais à un moment donné dans un cadre plus global, quoi. Qu'est-ce qu'on fait Une fois qu'on a vu que le système s'est emballé, qu'il y avait toujours des guerres, qu'il y a toujours des bordels, toujours des dysfonctionnements entre les plus riches et les plus pauvres, enfin, tu vois, tu as un système où c'est tout le monde vit parce que un jour, un mec s'est levé en disant il faut qu'il y ait 3% de croissance par an. Quoi. Bon, bah, d'accord, ok, il faut qu'il y ait 3% de croissance par an. Mais pourquoi, comment, quoi qu'est-ce ? D'où ça sort, 3% de croissance par an, quoi. Est-ce que toi, tu as besoin de prendre 3% de ta taille par an, quoi. Non, t'es bien comme ça, quoi. Et donc là, pour moi, dans ma conviction, on est au milieu du truc. Tu vois, t'as deux voies, c'est où on continue comme ça, il faut qu'on fasse plus temps, et le reste, on s'en branle, ou on se dit, attendez les gars, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut réfléchir sur qu'est-ce que la création de valeur, quoi. Est-ce que c'est uniquement sur la valeur pécuniaire, sur l'argent que tu reçois, ou est-ce qu'il y a autre chose à créer derrière, que ce soit en lien social, en transfert de compétences, de mieux vivre ensemble, de pouvoir bosser avec ses voisins, etc. Moi, je suis plus dans cette voie, quoi.
Intendo dire che il meccanismo messo in piedi a Genova.
Je veux dire par là che il meccanismo mis en place à Genova
aveva l'obiettivo di mortificare fisicamente e psicologicamente la gente.
Aveva l'obiettivo di mortifier fisicamente e psicologicamente, diciamo.
Paola, cosa sta succedendo?
Mi stanno assaltando. Come sono stanno? Arrivati, la strada è in discesa, sono arrivati di botto. Dalla discesa ci stanno. Guarda, è una situazione.
Paola,
di
chi è insostenibile. Chi è che vi sta assaltando?
La polizia.
Sì. Toi, t'étais à Gênes.
Ouais. J'étais, tu vois, Carlo est mort à la bagnole. Moi, j'étais là, à 20 mètres, quoi.
T'évoquais Carlo Giuliani, qui s'est fait tuer. Est-ce que là, justement, il n'y a pas une limite de l'action non violente ?
Quand ça s'est passé, si tu veux, à Gênes, c'était... Personne n'a réalisé de suite, quoi. Tous les mecs qui sont arrivés près des jeeps, il y a un morceau de bois qui a volé, qui a pété la vitre arrière. Et là, il y a Carlo qui était à côté, qui a pris l'extincteur. Moi, j'étais dans l'axe, c'est au moment où il était dans l'extincteur comme ça, t'entends un coup de feu. J'avais jamais entendu un coup de feu. J'ai jamais vu une arme, moi. Et là, tout d'un coup, PAN ! Et là, t'as un corps qui tombe, et là, t'as la bagnole qui roule, cette fameuse image où il y a les roues qui lui passent dessus, et tu comprends pas, quoi. Tu comprends pas ce qui se passe, tu veux. Le moment de la course, machin, et en plus, c'est en fin d'après-midi, donc il y a déjà toute la journée où ça cartonne. Le ciel, il est bleu, mais t'as un espèce de plafond de lacrymo partout. T'as les bagnoles qui brûlent, t'as vu des mecs passer toute la journée avec la gueule en sang, tu sais que chez les flics, c'est le bordel, ça court, t'as les rumeurs, enfin, c'est... Donc, si tu veux, ça allait très vite, quoi. Et là, t'as Carlo, par terre, en sang, quoi. Et donc, sur le coup, t'as pas le temps d'analyser, tu comprends pas, tu fais si. Mais après, avec le temps, donc alors ensuite ça repasse, tu vois, tu reviens en France, raconter ça à des. Moi en plus, je viens d'une culture, enfin, où ma famille, où mes potes que j'ai machin, j'ai personne qui est dans ce monde-là en fait.
Ah.
Dans le monde de l'activisme ou.
Ils sont comment ?
Non, bah mon père, il est. Ça m'est cool, hein, il est tout bib, machin, etc. Mais il est pas dans ce trip-là, ma mère non plus. Tu vois, par exemple, en 68, ils n'ont rien fait, eux. Ils n'ont pas bougé, ils étaient sur Bordeaux, à la cool. Ils n'ont jamais été dans ces luttes-là. Et donc, moi, si tu veux, tous ces trucs-là, moi, je les ai découverts tout seul, en fait. Par exemple, à Gênes, moi, j'y suis allé, j'étais tout seul. Puis maintenant, du coup, ouais, Carlo, je ne vais pas dire j'y pense tout le temps, tu vois, je n'ai pas fait de mausolée, machin, mais quand tu as été témoin d'un truc comme ça, et de toute manière, tu sais que si tu veux arriver à une victoire à un moment donné, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot, quoi. Il faut vraiment aller au carton, il faut vraiment bosser, il faut ça vient pas tout seul, quoi. C'est pas vrai. C'est-à-dire que tu sais que juste la mobilisation pour la mobilisation, ça suffit pas.
Ouais, on va vous aider, écartez-vous un peu les gens.
Non,
qui a demandé. Non, non, excusez-moi, le droit à l'information prime sur le droit à l'image, excusez-moi.
S'il vous plaît.
Ouais, c'est un grand jeu en fait. Chacun est en train de jouer son rôle. Le policier fait le policier avec beaucoup de sérieux en prenant la voix grave. On voit ceux qui ont l'expérience, qui ont déjà vu faire ça. Et pendant ce temps-là, il y a les militants qui ont déjà été arrêtés, qui frappent contre les vitres du fourgon cellulaire, qui est un minivan, et ils sont là.
Non, s'il vous plaît.
Restez ici, restez à bonne distance, s'il vous plaît.
C'est bon, j'ai mes 2 minutes pour jeter.
Qu'est-ce qui cogne ?
Dans le vert corps, pas de PR, dans le vert corps.
Ça, c'est qui, ça ? Ah, maintenant, c'est les ouvriers du coin qui sont énervés parce que les militants les empêchent de travailler et voilà, qui essayent de passer en force. Maintenant, les policiers sont obligés de se déployer pour pouvoir empêcher les salariés de l'usine occupée de venir faire la place nette eux-mêmes.
Attention, la jambe.
Allez, c'est bon.
Il y a les derniers qui font de la résistance, mais à mon avis, les forces de l'ordre vont pouvoir bientôt rétablir l'ordre. Mais pendant ce temps-là, ils sont en train de se rouler dans la boue. Ils sont tous salis, les pauvres. Mais il faut bien faire ça, c'est pour la cause.
Allez, hop, voilà celui-là. Allez.
Non, on a passé l'image pour
jeter. Allez-y, les gars, c'est bon.
Notre responsabilité maintenant, c'est maintenant mon combat, il est là-dedans, c'est de bosser dans des boîtes. Moi, je bosse pour une SARL, donc une vraie boîte avec un compte de résultats, il y a tout le bordel, mais où le boulot que tu fais et où les produits que tu vends et la manière dont tu gères ton boulot, c'est différent, c'est une alternative. Et tu réfléchis de manière vraiment organique dès le départ pour faire en sorte que tu aies une empreinte écologique la plus faible possible. Donc c'est en poule basse conso, tu prends pas ta bagnole pour faire n'importe quoi, tu gères tes déchets. Moi, c'est mon métier maintenant de faire ça, de faire de la com et de l'information, tu vois, pour les PME, PMI, pour installer des politiques de tri dans les boîtes. Et les gens, ils sont super demandeurs. Et pourquoi ils sont super demandeurs? Parce que tu les attires sur deux trucs, sur les économies en termes de business qu'ils pourront faire, et comment en interne, c'est des projets qui peuvent mobiliser les équipes, et comment en externe, ça peut verdir leur image, et pourquoi c'est positif pour eux. Tu vois, à chaque fois, c'est pareil. Tu vois, les personnes, tu peux les amener avec toi, mais il faut que tu aies une carotte, quoi. Sinon, ils ne viennent pas. Enfin, je suis désolé de le dire, hein, et c'est peut-être crade, ça passe peut-être mal ou machin.
C'est moins idéaliste, disons.
Quoi. Mais c'est la réalité. Mais en même temps, moi, ça ne m'empêche pas, moi, dans mon crâne, au fond, je suis tout seul, d'être le dernier des utopistes et premier des idéalistes. Mais après, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais comme choix? C'est où tu te parles pour toi, et à un moment, ça ne marche pas. Ou au fond de toi, tu as envie de faire ça, et tu démerdes, et tu joues avec les gens, clairement. Tu les mets en scène où tu te démerdes, et finalement, ils font des trucs qui te font beaucoup rigoler, quoi. Tu vois, on était à Polutech, le salon de l'écologie industrielle, et à la fin du salon, il y a un mec qui vient me voir avec une chemise bleue, costard, donc on commence à discuter, et il voulait être fourni en fourniture de bureau, vaisselle biodégradable, tout le bordel et tout. Et il me tend sa carte, le mec, il bosse pour Areva, quoi.
Areva, le nucléaire.
Areva, le nucléaire. Donc moi, si tu veux, ça, c'est des moments... Moi, qui perso me font super rire, quoi. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est-à-dire que tu es face à un mec, tu discutes avec lui.
Qui vend des centrales nucléaires.
Et surtout, ce mec-là, moi, Areva, moi, je me suis battu contre lui pendant 2 ans, quoi. C'est-à-dire, quand on a fait l'action contre la plateforme en face de l'EPR à Flamanville, c'était ça, quoi. Et donc, c'est rigolo de se retrouver face à un mec, puisque lui, il sait pas, je viens de ce monde-là. Et là, tu es face à lui, bonjour monsieur. Et t'as le petit sourire qui se lève, quoi. Là, tu fais un, là, je te nique. C'est ça qui est bien, tu vois.
Ah, il y en a qui font les au revoir. Là.
Ouais.
Tu vois. Au revoir à tout le monde, les gars, c'était super.
Ciao.
De toute façon, la dernière, on se revoit.
Merci. Bon retour.
Merci pour tout.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Bon retour. Vous allez en fait Paris en bagnole.
Ouais.
Demain matin.
Salut, bon retour.
Salut, histoire de.
Ciao.
Salut, merci pour tout. Courage, merci à toi.
À une prochaine.
Ciao.
On s'est donné des rendez-vous en prison à tous.
C'est le clown. Ouais, à bientôt. Ciao, bye bye, bon retour.
Allez, hop là. Bon retour. Salut.
C'est un reportage de Renaud Lambert et de Guy Vanctil. Merci à Xavier Renaud et à tous les militants non-violents. Et puis à ne pas manquer le festival Peace & Land 2. 3 jours de stage de désobéissance civile, les 21, c'est-à-dire aujourd'hui 22 et 23 septembre à La Teste en Gironde. Et aussi des concerts, des forums et des débats. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique, Rémi Quincé et Alain Arztam. Réalisation, Yann Chouquet et Coy Nguyen. Assistante, Charlotte Perry. Chef du répondeur, Christophe Humbert. Et justement, le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis. 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37